Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
De retour au deuxième service. Non, mon Dieu. De retour au 9, petit lapsus avec mon émission du vendredi. C'est un drôle de réflexe. Christine, on reste sur le campus avec toi parce que, bon, les bourses perspectives, ça a fait énormément jaser dans les dernières semaines. Abandon par le gouvernement de ce moyen de financement-là. On a des collègues ici même au bureau qui étaient sur les bourses perspectives et tu as eu des petits commentaires où les gens t'ont parlé plutôt des bourses perspectives.
Oui, exactement. Je pensais, en fait, le service, je pensais que tu étais encore sur le volleyball.
Ah, c'est vrai, c'est vrai.
Donc oui, en fait, on parle d'une décision là, qui ne passe pas inaperçue du côté des bourses perspectives. Ça touche directement les étudiants et étudiantes du Québec. C'est une annonce qui a fait grincer les dents à plusieurs personnes, là, puis il y a une bonne raison pour ça. Donc, je fais un petit rappel là, pour ceux soit qui ne sont pas au courant ou qui vivent sous une roche. Là. Les bourses perspectives, c'était jusqu'à 2 500 $ par session universitaire et 1 500 $ au cégep qui étaient offerts aux étudiants inscrits dans des domaines en pénurie de main-d'œuvre. L'idée, c'était d'encourager la persévérance scolaire et de réduire un peu le stress financier de milliers de jeunes dans un contexte où l'inflation, là, ça frappe fort et la précarité étudiante est en hausse. D'ailleurs, l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur ne cesse pas de le rappeler que les étudiants sont de plus en plus vulnérables là, du côté de la précarité financière. Donc, quand Québec décide d'abolir cette bourse, forcément, là, ça inquiète des gens parce qu'au-delà de l'intention d'attirer plus d'étudiants vers certains domaines, ces bourses étaient aussi un filet de sécurité pour plusieurs. D'ailleurs, l'Union étudiante du Québec, dans les statistiques, mentionne que 58 % des universitaires affichent un niveau très élevé de détresse psychologique. Donc, c'est pas étonnant quand on sait que jongler entre les études, un emploi à temps partiel, des factures en hausse, ça peut être vraiment le parcours du combattant. J'ai parlé à l'Union étudiante du Québec, justement, qui m'ont mentionné qu'essentiellement, eux, ils sont fâchés de voir que la ministre coupe de l'argent qui allait dans les poches des personnes étudiantes. Ça fait des mois qu'ils revendiquent plusieurs solutions pour mettre fin à la précarité financière étudiante. Et il est essentiel de rémunérer les stages, de revoir le calcul d'aide financière aux études pour permettre à plus de personnes étudiantes d'en bénéficier et d'investir pour lutter contre l'insécurité alimentaire sur le campus. Couper dans les bourses perspectives, d'après eux, ça va à l'encontre de ce qu'on a besoin sur le terrain. Les bourses perspectives n'y étaient pas parfaites, mais c'était la seule aide dont disposait une bonne partie des stagiaires qui ont des stages non rémunérés, notamment en éducation et en santé et en services sociaux. Donc, il est nécessaire que l'argent qui est coupé aux personnes étudiantes soit réinvesti dans les personnes étudiantes, que ce soit à travers la remise sur pied d'un programme perspective, la rémunération des stages, évidemment, là, qui est une demande très commune là, à travers, surtout du côté des services un peu plus sociaux, donc la rémunération des stages ou encore la bonification des prêts et bourses qu'on a présentement. La population étudiante, toujours d'après l'Union étudiante du Québec, est en précarité comme jamais avec la crise du logement, la hausse du coût de la vie, l'augmentation de l'insécurité alimentaire. C'est vraiment du jamais vu et il est nécessaire que la ministre en fasse un peu plus pour renverser le poids de la précarité. Du côté du Cégep de Sherbrooke et de l'Université de Sherbrooke, donc en réponse aux questions de Radio-Canada, Sophie Meyer, directrice des études du Cégep de Sherbrooke, indique que la bourse avait quand même un impact financier important pour les étudiants. Ouais. Donc c'est pour ça qu'eux, au Cégep, ils pensent que ça a quand même un effet positif là, sur la persévérance et éventuellement sur la diplomation aussi, mais malheureusement, ils mentionnent que ça fait pas assez longtemps, ils peuvent pas avoir les statistiques encore sur la diplomation, parce que la bourse a pas fait son tour au complet, finalement. Il est quand même important de mentionner qu'il y a une clause grand-père. Donc, le gouvernement promet de maintenir la bourse pour ceux et celles qui sont déjà inscrits grâce à une clause grand-père. Donc, si vous avez déjà la bourse, là, même si elle se termine à la session d'hiver, vous avez droit quand même de la conserver. Mais ça aide pas, par contre, pour ceux qui comptaient là-dessus là, pour la session d'automne qui s'en vient. Pour eux, la nouvelle est quand même brutale. Et Sophie Meyer, toujours du Cégep de Sherbrooke, mentionne qu'il y avait déjà des étudiants qui avaient fait leur demande d'admission là, pour le Cégep, donc qui comptaient peut-être là, sur cette bourse-là. Et du côté de l'Université de Sherbrooke, on a la vice-rectrice aux études, Christine Hudon, qui affirme par courriel à Radio-Canada avoir très peu d'informations, parce que c'est ça un peu le nerf de la guerre présentement, c'est qu'on n'a pas d'informations beaucoup sur la suite des choses. Donc, au ministère de l'Enseignement supérieur, on est à régler les modalités de l'application de la décision. Et ils disent là, du côté à Madame Hudon que l'information sera disponible en ligne éventuellement. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'informations disponibles. J'ai aussi parlé, en fait, là, j'ai eu les commentaires d'une étudiante à la maîtrise en travail social, donc Victoria Vieira, qui me mentionne que, ironiquement, le gouvernement lui-même reconnaît la dégradation de la santé mentale étudiante dans son plan d'action sur la santé mentale en enseignement supérieur. Pourtant, il choisit de mettre fin à un programme qui contribuait à limiter cette précarité. Mmh. Il faut le dire haut et fort, la fin des bourses perspectives est une décision incompréhensible, un recul qui pénalise les plus vulnérables. Si l'objectif est de favoriser la réussite étudiante, la solution n'est certainement pas de fragiliser encore plus celles et ceux qui tentent de s'en sortir. Pour les personnes étudiantes effectuant des stages non rémunérés, la fin des bourses perspectives est désolante car elle leur permettait de payer des factures essentielles. Ouais. Sur le plan personnel, cette bourse lui a permis d'aller à l'université, de couvrir les dépenses liées à son stage non rémunéré, comme l'essence pour se rendre à son lieu de travail, son lieu de stage plutôt, qui était situé à une heure de chez elle. Sans cette bourse, elle ne sait même pas si elle aurait eu les moyens de poursuivre ses études. Puis grâce à cette mesure-là, elle est aujourd'hui en la maîtrise en travail social. Donc, c'est quand même quelque chose qui était important pour elle. Et elle nous laisse aussi sur un mot à la communauté étudiante. Donc, elle mentionne « Je pense à vous, mes collègues, dans des domaines à prédominance féminine pour lesquels vos stages sont non rémunérés. Cette coupure vous impacte encore plus durement. Cette suppression est une preuve claire que les bourses octroyées par le gouvernement ne sont jamais pérennes et restent instables. » Surtout pour les personnes les plus vulnérables. En mon sens, ce contexte justifie encore plus le besoin de mener la lutte pour la rémunération des stages et pour améliorer les conditions de vie étudiantes, des étudiantes et des étudiants. Donc, du côté de la ministre Derry, elle justifie la fin du programme en disant qu'il n'y aurait pas, que le programme n'aurait pas atteint son objectif d'attraction vers les domaines en pénurie comme l'éducation. Mais c'est-tu vraiment surprenant? Parce que la pénurie de main-d'œuvre, surtout en santé, en éducation puis en services sociaux, c'est pas juste une question de recrutement. C'est aussi les conditions de travail, là, les salaires qui posent un problème, puis justement les conditions de travail. Et offrir une bourse pour inciter les jeunes à s'engager dans ces professions sans régler les enjeux de fond, c'est un peu un pari d'avance. Mmh. Donc, depuis que l'annonce est tombée, il y a à peu près 2 semaines... on n'a pas vraiment beaucoup d'informations, donc c'est un peu le silence radio du côté du gouvernement. C'est sûr qu'on va continuer à suivre ça là, de notre côté, puis on va vous tenir au courant s'il y a des développements, mais pour l'instant, c'est la fin de la bourse perspective à la session d'hiver 2025.
Ouais. Mais c'est vrai que historiquement, les programmes d'incitation à retourner aux études n'ont pas super bien fonctionné. T'sais, à preuve, les infirmiers, infirmières préposés qui ont passé le cours pour avoir une formation accélérée. Il y en a énormément aujourd'hui qui ont fait leur année obligatoire puis qui ont déjà à peu près tous abandonné. Il y avait eu aussi la formation en construction.
Oui.
On voulait davantage de travailleurs de la construction. Finalement, il y avait des gens qui prenaient le cours, qui étaient payés pour essentiellement ne jamais travailler là-dedans et avoir des trucs pour comment rénover leur chalet. Il y a littéralement un gars qui a dit ça en entrevue, que finalement, il prenait juste des cours pour rénover sa salle de bain. Mais voilà, dans le cas de perspective, c'est un peu plus... C'est un peu plus dommage parce que c'était des vrais métiers qui avaient besoin. Tu sais, c'était en informatique, c'était en éducation, tu l'as dit. Il y avait un autre volet aussi.
Il y avait du côté génie, il y avait éducation, génie, santé, services sociaux. C'est sûr que l'idée derrière tout ça, en fait, là, c'est que donner juste une petite bourse, un petit montant d'argent...
Ouais, une fois de temps en temps,
pour inciter des gens à aller dans des carrières comme ça, c'est peut-être pas la bonne façon. Il faut vraiment revoir la raison pour laquelle les gens vont dans ces métiers-là, finalement. Surtout que c'est beaucoup, quand on regarde, c'est beaucoup des métiers à prédominance féminine, là, quand on parle les sciences sociales, l'éducation, la santé. C'est des métiers qui ont été un peu délaissés du côté des services, là, puis du côté des conditions de travail. Donc, c'est ça, c'est plus de ce côté-là qu'il faudrait aller chercher, rendre le métier intéressant plutôt. Ouais. Puis là, les gens vont s'inscrire plus naturellement. Mais c'est le désavantage de la bourse perspective aussi, c'est que il y a d'autres domaines aussi qui auraient peut-être eu besoin d'une bourse. Ça encourageait certaines personnes à aller dans des domaines à cause de la bourse, mais c'est pas nécessairement parce que c'est des domaines qui les intéressaient spécifiquement. Donc, c'est sûr que ça, l'idée, en fait, là, quand on se ramasse à l'université ou au cégep, c'est d'aller dans quelque chose qui nous passionne, c'est d'aller dans quelque chose qu'on veut faire carrière à l'intérieur. Donc, si on fait juste y aller parce que nos études sont remboursées en bout de ligne par une bourse perspective, c'est peut-être pas la bonne façon à ce moment-là d'attirer la bonne qualité de personnes là, dans ces domaines-là, mais c'est quand même un montant d'argent qui est nécessaire, surtout là, avec les changements du côté de la finance présentement, là, depuis la COVID, surtout, là, tous les prix ont monté.
Oui, c'est ça, les hausses un peu partout, ça reste quand même... Ça reste quand même difficile, comme tu le disais, c'est ça, pour certaines personnes, de joindre les deux bouts, comme on pourrait utiliser une autre expression consacrée. Mais voilà, donc à suivre dans ce dossier-là de Bourse Perspective. On s'arrête quelques instants au retour. La conclusion de l'émission de ce jour, de ce lundi 24 février.